En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Bonjour, le défi de la matière noire dans l'univers, c'est le thème de l'intervention de Françoise Combes, astrophysicienne, membre de l'Académie des sciences, que nous vous proposons d'écouter dans quelques instants. Cette communication a été faite dans le cadre d'une série de conférences intitulée « Les grands défis du XXIe siècle ». Et effectivement, la matière noire est une énigme que les astrophysiciens essaient de percer. Alors ce terme de matière noire est apparu dans les années 90, sans que l'on sache pour autant de quoi elle est faite. Cette matière noire ou matière sombre désigne quelque chose d'indétectable, invoqué pour rendre compte d'effets inattendus, notamment au sujet des galaxies. Alors plusieurs hypothèses ont été émises sur sa composition, gaz moléculaire, étoiles mortes ou encore naines brunes en grand nombre. Aujourd'hui, les scientifiques se penchent sur l'idée que la matière noire serait non baryonique, c'est-à-dire composée de particules élémentaires n'existant pas sur Terre et donc très difficile à détecter expérimentalement. Autre élément important, depuis 2002, on estime que l'univers est composé à 73% d'énergie noire, une énergie qui expliquerait notamment l'accélération de l'expansion de l'univers, de 23% de matière noire, de 3,6% de baryon noir et seulement de 0,4% de matière visible. Vous l'avez compris, les astrophysiciens ont encore beaucoup de travail avant de percer le mystère de l'univers. Tout de suite, la communication de Françoise Combes, astronome à l'Observatoire de Paris.
La première transparente que je voulais vous montrer, donc le défi de la matière noire. Ici, vous avez une image qui représente les galaxies. Les points blancs sont les galaxies, donc une image optique. Et vous voyez qu'au centre, il y a un amas de galaxies, un amas de points blancs. Et ce que vous voyez en bleu, c'est justement la matière noire, que l'on ne voit pas, bien entendu, mais que l'on peut tracer par lentille gravitationnelle. Donc on peut faire une cartographie du ciel par lentille gravitationnelle et représenter le résultat de la matière projetée selon la ligne de visée en bleu. Et c'est ce que vous voyez là. Donc évidemment, c'est un des premières. Ce n'est que depuis ces dernières années qu'on arrive à faire des images de lentille gravitationnelle. Donc je vais vous en décrire dans cet exposé. Alors d'abord, je vais remonter aux sources. Bien sûr, la matière noire, on la connaît depuis 1937, le fameux article de Swicki, qui essayait de connaître la masse qu'il y avait dans les amas de galaxies, notamment l'amas de Coma. Et il avait remarqué que si on regardait les vitesses, la dispersion de vitesse qu'ont les galaxies entre elles, donc vous voyez qu'il y avait un certain nombre de masses qui étaient complètement invisibles, vues uniquement par les vitesses de dispersion dans l'amas. Ensuite, dans les années 80, on sait qu'il y a énormément de travaux sur la courbe de rotation des galaxies. Alors, en voici une, c'est la courbe de rotation de la Voie lactée, notre propre galaxie. Vous avez en abscisse le rayon à partir du centre de la galaxie, qui est en kiloparsec. Je vous rappelle que le parsec, c'est 3 années-lumière. Donc, la position du Soleil par rapport au centre est à 8 kiloparsec, ici. Ce que vous voyez plotter en ordonnée, c'est la vitesse de rotation que l'on mesure par effet Doppler de tous les traceurs, donc des étoiles, du gaz qui tourne autour de la galaxie. Vous avez les points de mesure qui sont les étoiles ici. Vous voyez que la courbe de rotation mesurée, donc, elle est plate lorsqu'on va au très grand rayon, loin du centre de la galaxie, même au-delà du Soleil. Comment peut-on essayer d'expliquer cela? Alors, vous voyez une décomposition, d'abord, de la masse lumineuse. Dans notre galaxie, il y a un bulbe et un disque, un bulbe d'étoiles. Vous avez la contribution du bulbe à la courbe de rotation qui est montée en pointillé avec une notation B pour bulbe. Vous avez le disque d'étoiles, que l'on peut aussi connaître avec la lune des étoiles, c'est le disque D. Et la somme des deux nous donne la courbe ici en trait léger, et on voit qu'elle va descendre, comme le prédit la loi de Kepler, en V2, en GM sur R, en 1 sur R. Et vous voyez que les courbes de rotation sont bien plus hauts, donc il y a vraiment un écart énorme, que l'on comble en disant qu'il y a ce composant qu'on appelle H ou halo, halo de matière noire, qu'on est obligé de rajouter dans les parties externes des galaxies. Donc ici, c'est surtout en fait dans les parties externes qu'on a besoin de cette matière noire. On la trace surtout avec le traceur d'hydrogène atomique, qu'on appelle H1, et qui est cartographié avec la longueur d'onde 21 cm, qui est la longueur d'onde de l'état hyperfin fondamental, 21 cm. Et vous voyez toute une compilation de courbes de rotation de tout type, des naines, des géantes, etc., bulbes ou disques. Et vous voyez ce qui est le fait frappant, c'est qu'elles sont toutes plates. Il y a une conspiration ainsi du composant matière noire et matière visible. Elles sont toutes plates jusqu'à vraiment très long. Le Soleil sera à 8 kiloparsecs ici, vous voyez que 2 ou 3 rayons du Soleil. Comment peut-on le savoir? Il n'y a plus d'étoiles du tout, mais il y a du gaz. Vous voyez un petit peu cette cartographie de la galaxie bien connue, Messier 83. Vous voyez que dans ce zoom, la galaxie optique, les étoiles, est juste dans le petit trou noir ici. Et ce que montre ce diagramme, c'est que l'hydrogène atomique, H1, est donc beaucoup plus étendu que les étoiles, au moins 3 ou 4 rayons optiques de la galaxie, et c'est grâce à ce composant, ce testeur. En lui-même, il ne représente que très peu de masse, quelques pourcents de la masse de la galaxie, mais c'est une particule test, si vous voulez, qui teste par effet Doppler la rotation et qui nous trace la masse. Donc c'est par ces courbes de rotation qu'on sait qu'on a besoin d'une enveloppe de la galaxie, pas tellement au centre. Au centre, on n'a pas besoin de matière noire, mais à l'extérieur, on a besoin de beaucoup de matière noire. Alors, au-delà, on sait que dans les amas, les galaxies, au-delà, que peut-on dire de la densité de l'univers en général? Justement, dans les années 80, on avait l'évidence, par les amas de galaxies, par tout ce qu'on connaissait de matière noire, de 1 oméga. Alors, je parlerai maintenant en oméga, c'est-à-dire la quantité sans dimension, qui est le rapport de la densité de l'univers à la densité critique pour fermer l'univers. Cette densité critique est 10⁻²⁹ grammes par centimètre cube, vous voyez que c'est assez peu. Et on a l'habitude de quantifier toutes les densités, tous les composants, dans ce fameux oméga. Donc, l'oméga total, dans les années 80, n'était pas plus que 0,1. Or, on savait que les baryons, la matière ordinaire faite de protons et de neutrons, avaient un oméga B, qu'on quantifie toujours dans le même style, oméga, qui était de 0,05, donc pas si loin que 0,1. Donc dans les années 80, alors ça on le sait par la nucléosynthèse primordiale dans le Big Bang. Dans le Big Bang, dans le premier quart d'heure, se forment le deutérium, l'hélium, le lithium, les premiers éléments. Et on peut les mesurer aujourd'hui, dans leur abondance. Et de cette abondance, on déduit qu'il n'y a pas eu plus de baryons que 5% de la densité critique. Et ça, ça correspondait dans les années 80 à peu près à la densité totale de l'univers. Donc, dans les années 80, en fait, il n'y avait pas vraiment évidence de matière noire autre que baryonique. La matière noire non baryonique est arrivée dans les années 90 par la détection d'anisotropie dans le fond cosmique de rayonnement, qui est le fond cosmique à 3 degrés K, que vous connaissez, c'est le rayonnement fossile du Big Bang. Ici, je représentais le Big Bang. Et puis, donc l'univers est de plus en plus froid. Dans l'expansion de l'univers, la température baisse, elle passe par la valeur de 3000 degrés, auquel cas les protons et électrons se recombinent en hydrogène, donc il y a une recombinaison de l'univers, et c'est cette surface de recombinaison ici que l'on voit lorsque on cartographie les fluctuations, les petites anisotropies du fond de rayonnement à 3 degrés K. Donc en Kobe, dans les années 92, a détecté ces anisotropies. Ça a été un grand soulagement parce que jusqu'à cette époque-là, on n'avait que des mesures au sol qui ne trouvaient toujours pas de fluctuations. On arrive à 10-3, 10-4, 10-5, c'est très 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 petit. Et c'est grâce à ce chiffre-là, 10-5, qui est très 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 petit, qu'on a pu remarquer qu'on avait besoin de matière non baryonique. Alors pourquoi? C'est pour former les galaxies. En effet, comment se forment les galaxies? Les galaxies se forment par instabilité gravitationnelle. Alors jusque-là, pas de problème, c'est très facile. On a l'habitude de former des étoiles par instabilité gravitationnelle. On sait qu'un nuage de gaz peut s'effondrer de façon exponentielle. Mais pour les galaxies, c'est très très difficile parce que l'univers est en expansion. Donc on commence par des fluctuations à 10-5, rien n'est encore lié. Et il faut pouvoir arriver à une fluctuation que j'appelle delta rho sur rho, c'est une fluctuation de densité en relatif qu'on appelle delta pour simplifier. Il faut arriver au chiffre de l'ordre de 1, au 0,1 en tout cas, passer au régime non linéaire pour pouvoir s'effondrer de façon exponentielle. Entre 10-5 et 1, vous n'avez qu'un développement très 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 doux qui est contrecarré par l'expansion. C'est ça le gros problème. On peut montrer que le développement des fluctuations, delta rho sur rho, ne croît comme l'échelle caractéristique de l'univers, de l'expansion. À toute échelle R, croît R comme R de T. Et c'est aussi, d'ailleurs, la définition du redshift. Le redshift, c'est quoi? Le Z, là, de delta lambda sur lambda. C'est le décalage vers le rouge des galaxies qui émettent vers nous avec un rayonnement qui, par expansion de l'univers, a décalé vers le rouge. C'est-à-dire que la longueur d'onde des photons a exactement la même expansion que l'univers. Donc 1 plus Z caractérise l'échelle caractéristique de l'univers. Donc, les condensations delta rho ne croissent que comme cette longueur d'onde, en fait, ou comme l'échelle caractéristique de l'univers. Donc, vous voyez que si on commence à 10-5 et qu'on commence seulement à découpler les baryons à partir de la température de 3000 K, température à laquelle les protons et les électrons se recombinent en hydrogène, à ce moment-là, ça correspond à un redshift de 1000, puisque T égale 3K facteur 1 plus Z. Et vous voyez qu'on ne va croître que d'un facteur 1000 jusqu'à aujourd'hui. Donc si on part de 10-5, si on n'a que des baryons, on ne peut pas former de galaxies. Donc ça, il nous faut autre chose. Il nous faut une matière non baryonique qui n'interagit pas avec les photons. Elle n'interagit avec le reste de l'univers qu'avec la gravité. Donc elle peut commencer à s'effondrer, à former des structures, bien avant que les baryons soient découplés des photons. Alors ici, j'ai fait un petit diagramme très symbolique qui montre que les baryons vont faire croître leurs fluctuations de façon linéaire à partir de la recombinaison R ici. Donc ils vont arriver de 10-5 multiplié par 10-3 à 10-2 s'il n'y avait que des baryons. Par contre, il y a cette fameuse matière noire que je vais appeler CDM, non baryonique, qui elle va pouvoir commencer à s'effondrer lorsqu'elle va dominer sur les photons. Alors quand est-ce qu'elle domine? Au départ, l'univers, après le Big Bang, il est dominé par le rayonnement. Et puis, il arrive un moment où il va être dominé par la matière. Comment ça se passe? En fait, la densité varie comme 1 sur R3 pour la matière, ça c'est évident. Par contre, pour les photons, comme il n'y a pas de masse, il y a un degré d'énergie qui est H nu le photon, et donc nu s'étend, rougit vers le rouge, donc elle décroît comme 1 sur R aussi. Donc la densité de photons croît comme R-4. Donc évidemment, lorsqu'il y a un rayon pour lequel on a équivalence de densité entre matière et photon. Alors cette équivalence, eux ici, est bien avant la recombinaison, ce qui fait que les non-baryons peuvent commencer à s'effondrer bien avant, et c'est grâce à eux qu'on a des galaxies aujourd'hui. Donc on a, dès les années 90, on savait qu'on avait besoin de matière non-baryonique. Alors aujourd'hui, on connaît de façon beaucoup plus précise le contenu de l'univers. Ici, j'ai fait un camembert que vous avez sans doute vu très souvent. Vous avez l'énergie noire qui correspond pour les trois quarts, c'est vraiment noir de noir ici. On ne connaît rien du tout de cette énergie noire, je vais en dire quelques mots quand même. Ici, l'exposé, c'est sur la matière noire qui fait à peu près le quart. La matière fait le complément à l'énergie noire ici. Et vous voyez que, donc ça c'est la matière non baryonique que l'on ne connaît pas, et vous voyez que les baryons, donc le total fait 4% à peu près dans ce schéma, 4 ou 5%, c'est l'incertitude. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la matière visible, les étoiles, le gaz, etc., ne font que 10% des baryons. Donc on a quand même 90% des baryons qui sont de la matière noire baryonique que l'on ne connaît pas. Donc la matière qui est vraiment plus lumineuse ici, c'est 0,4% du tout. Vous vous rendez compte qu'on connaît peu de choses dans cet univers. Alors comment connaît-on tout cela? Ça, c'est à partir de 2002, les résultats de WMAP, c'est-à-dire le successeur de Kobe, qui a cartographié les fluctuations du fond cosmologique, du fond fossile, du fond de rayonnement fossile du Big Bang. Ici, ce que vous voyez, c'est par une échelle angulaire, multipôle ou échelle angulaire. Ici, les grandes échelles, ici, les petites échelles. Vous voyez l'amplitude, la fonction de corrélation de l'amplitude en fonction des échelles. Ce que l'on voit ici, ce sont les oscillations acoustiques du milieu photon et matière qui existe avant la recombinaison. La recombinaison arrive à 300 000 ans après le Big Bang, mais juste avant, vous avez un plasma couplé avec les baryons qui n'est pas instable parce que les photons empêchent l'instabilité. Donc on a des ondes qui se déplacent, qui viennent sans doute de l'inflation, donc là j'en dirai rien aujourd'hui. On a des conditions initiales qui ont infusé des fluctuations, et puis ces fluctuations se déplacent avec la vitesse du son, c'est sur racine de 3 ici, et ce qu'on voit ici, c'est l'échelle de l'horizon sonore, c'est-à-dire que l'échelle qu'a pu parcourir le son jusqu'à 300 000 ans. Donc ça, c'est une règle standard, si vous voulez, on la connaît, c'est 150 mégaparsecs ou 500 millions d'années-lumière, mais le fait qu'on puisse la mesurer, hein, c'est cette structure-là qui est l'horizon sonore ici, c'est la première ride, si vous voulez, le fait qu'on puisse la mesurer nous donne tout de suite la courbure de l'univers, parce qu'on voit une taille angulaire qui correspond à une règle standard dont on connaît la longueur. Donc on connaît si, on peut en déduire si l'univers est courbe ou plat. Et justement, vous voyez à quelle précision la courbe fit les points de données, la position de ce point nous donne que l'univers est plat. Alors voici justement quelle est la sensibilité aux paramètres de ces courbes, de ces pics acoustiques. Ici, vous voyez que oméga, c'est l'oméga total de l'univers, ici. Et vous voyez que la position latérale, c'est-à-dire en espace, la taille de l'horizon sonore, ça détermine surtout la courbure de l'univers. Donc, avec ça, on peut dire, avec grande précision, que l'univers est plat. et que la somme de la matière et de l'énergie noire fait 1. Maintenant, on peut déduire aussi pas mal de choses de ces courbes. Le deuxième pic, par exemple, le rapport du deuxième pic au premier, on voit que c'est fonction du nombre de baryons. Ici, on voit bien oméga B joue beaucoup sur le deuxième pic. Et donc, la mesure de ce deuxième pic a pu confirmer que oméga B était 5% du tout. Et donc, ça confirme bien ce qu'on savait par nucléosynthèse primordiale à partir du Big Bang. On connaît aussi la constante de Hubble qui est à 10% près. Donc, on connaît automatiquement l'âge de l'univers qui est 14 milliards d'années. Tout ça est connu à 10% près aujourd'hui. On est en train de prévoir des nouvelles expériences qui permettront de déterminer ces grandeurs à 1% près, parce que maintenant, l'enjeu, c'est de savoir ce que c'est que cette énergie noire, cette matière noire, dont on ne sait toujours pas ce que c'est. Et pour ça, il nous faut plus de précision que 10%. Donc, ici, je résume un petit peu l'histoire de l'univers depuis le Big Bang. Il n'y a pas seulement le WMAP et l'étude des anisotropies du fond cosmique, mais aussi le télescope spatial Hubble a permis d'explorer l'univers, car avec ses images très très précises, il permet de remonter le temps. Vous savez qu'un télescope, c'est vraiment la machine à remonter le temps. Pourquoi ? Parce que la lumière ne voyage qu'à la vitesse de la lumière, avec une vitesse finie. Donc quand on regarde les objets et qu'on remonte dans l'espace, fatalement, on voit les objets lorsqu'ils ont émis cette lumière, c'est-à-dire il y a quelques milliards d'années, lorsque l'univers est encore jeune. Donc ici, aujourd'hui, on peut remonter 95% de l'âge de l'univers, c'est-à-dire qu'on peut regarder jusqu'à l'horizon. Ici, on a notre horizon. Chaque point de l'univers est entouré de son horizon, c'est-à-dire une sphère qui fait 14 milliards d'années-lumière, bien sûr, puisque l'âge depuis le Big Bang, c'est 14 milliards d'années. Donc ici, vous avez le Big Bang, représenté au fond de notre horizon. Vous avez la dernière surface de diffusion des photons, puisqu'au-delà, l'univers est opaque. Les photons interagissent encore avec les protons et les particules chargées. Dès qu'ils recombinent ici, à 300 000 ans après le Big Bang, l'univers devient transparent, les photons vont en ligne droite. Vous avez ce qu'on appelle un âge sombre, c'est-à-dire que l'univers est neutre maintenant, il est fait d'hydrogène neutre, mais il n'y a pas encore de lumière, donc pas d'étoiles, rien qui illumine. Par contre, les premières étoiles vont arriver là, à un demi-milliard d'années, symbolisé ici par ce petit dessin avec des petites galaxies entourées de lumière jaune. Et puis peu à peu, ces petites galaxies vont envoyer des lumières ultraviolets qui vont ioniser le milieu intergalactique environnant. Et on va avoir peu à peu percolation de toutes ces petites bulles autour des galaxies. Et l'univers va être complètement rayonisé, environ un milliard d'années, ce qu'on appelle la fin de la rayonisation. Toute l'époque entre Z égale 10 et 6 est appelée époque de rayonisation, où l'univers est partiellement neutre, partiellement rayonisé. Et puis ensuite, on redevient transparent ici. Donc vous voyez, tout ça, on a pu regardez jusque-là, on ne pourra pas regarder au-delà puisque l'univers est opaque, mais on a pu regarder pratiquement jusqu'à la fin de l'horizon. Donc tout ça conforte l'idée que nous faisons du contenu de l'univers. Ici, il y a plusieurs phénomènes physiques qui confortent cette idée. D'abord la lentille gravitationnelle, qui est une façon de voir par déviation des rayons lumineux toute la masse qu'il y a et qu'on ne peut pas voir autrement. Donc en régime fort, vous avez un bel exemple ici d'un amas de galaxies dans lequel vous avez des arcs ici, qu'on appelle arcs gravitationnels, qui sont simplement des galaxies de fond, bien derrière l'amas, et qui sont perturbées par la lentille gravitationnelle qui est l'amas, la masse de l'amas. Donc ça, vous voyez que la quantité de déformation permet de déduire la masse qu'il y a dans l'amas, la masse noire. Mais aujourd'hui, on est arrivé à voir ces arcs gravitationnels dans la fin des années 80, l'année 90, et avec le télescope Hubble, évidemment. Et puis aujourd'hui, on arrive aussi à déterminer les lentilles dans le régime faible, c'est-à-dire lorsque on est loin de la lentille et qu'on peut donc ainsi cartographier tout l'univers. Ici, vous avez un petit cartoon qui vous montre les galaxies de fond non perturbées. Et puis on met une lentille au centre de l'image, là, le point rouge. Vous voyez que la galaxie qui est juste sur la même ligne de visée que la lentille va être très perturbée, il va y avoir des arcs gravitationnels. Par contre, toutes les autres vont être un petit peu cisaillées, on appelle ça cisaillement gravitationnel. Elles ont une forme un peu déformée et toutes vont entourer la lentille, un petit peu comme un tesson de bouteille qui vous forme une image déformée de ce qu'il y a derrière le tesson de bouteille. Le problème, c'est que toutes les galaxies ne sont pas de la même forme. Ils ont une forme intrinsèque, donc ici c'est une petite cartoon un peu plus réaliste. Donc le travail, c'est de déconvoluer en fait la forme intrinsèque des galaxies, qui est toujours un tout petit peu perturbée, et puis les déformations que rajoute la lentille gravitationnelle. Alors ça, on sait le faire aujourd'hui avec des milliers et des milliers de galaxies, il faut faire sur des grands champs, et les résultats sont tombés il y a 2 ou 3 ans, et aujourd'hui on va en montrer. On peut cartographier ainsi des grands champs d'univers. Alors voici par exemple un exemple très récent, Massé et al., 2007, qui ont regardé un grand champ observé par le télescope Hubble, le champ Cosmos, qui a 2 degrés de champ. C'est une mosaïque, parce que le télescope spatial Hubble a un tout petit champ de 3 ou 4 minutes. Donc pour cartographier 2 degrés, il a fallu faire une grande mosaïque. Et ce, vous pouvez comparer la masse visible et la masse noire. Alors la masse visible ici, il s'agit du gaz X, du gaz chaud qu'on a vu en rayons X. Pourquoi ? Parce que dans les amas de galaxies, comme je l'expliquerai un petit peu plus tard, l'essentiel de la masse de baryon, la masse visible, elle est sous forme de gaz chaud. Elle est même beaucoup plus chaude, enfin beaucoup plus massive, que toutes les étoiles des galaxies qui sont dans l'amas. Donc l'amas est un rare environnement où on voit tous les baryons. Donc ici, il vaut mieux cartographier en X par un satellite X, par exemple XMM ou Chandra, cartographier les amas de galaxies. Vous voyez ici que les amas de galaxies correspondent un petit peu à la matière noire. Pas tout à fait, mais vous pouvez regarder les différences entre matière noire bleue, qui est cartographiée par les lentilles gravitationnelles faibles, les petites distorsions des galaxies de fond, et puis la matière visible. Il y a aussi une autre observation complètement différente. Donc c'est tout, ce que je veux montrer, c'est que c'est le faisceau d'observation qui conforte le scénario que l'on a aujourd'hui et qui, enfin, je pense qu'il y a un consensus dans le modèle d'univers qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a au moins 3 ou 4 expériences qui n'ont rien à voir les unes entre elles, qui donnent la même chose. Alors, par exemple, une des expériences, c'est les supernovas de type 1A. Ces supernovas sont des étoiles qui explosent et qui ont une luminosité maximum lors de leur explosion. Ici, vous avez une courbe de lumière en fonction des jours. Vous avez la luminosité. La supernova explose et elle a une courbe de lumière qui est standardisable. Je ne dirais pas que c'est des chandelles standards, c'est-à-dire que le pic au maximum n'est pas constant. Vous le voyez en fonction de plusieurs courbes de lumière, plusieurs supernovas qui sont présentées ici. Mais le maximum de lumière émis lors de l'explosion est fonction de la largeur à mi-hauteur de la courbe de lumière. Ce qui fait qu'il suffit de corriger par la largeur que vous observez lorsque vous faites un monitoring de toute la courbe de lumière de la supernova, et vous retombez par cette standardisation sur cette courbe unique. Vous voyez que là, on commence à avoir une bonne précision. Donc on a la luminosité intrinsèque de la supernova, et donc en ayant la luminosité apparente, on a la distance. Donc ça, c'est vraiment une chandelle standard qui permet de relier le redshift à la distance et donc d'avoir la courbure de l'univers et beaucoup de choses, la contour de Hubble, etc. Vous voyez sur ce petit diagramme qu'une seule étoile peut être aussi brillante que toute la galaxie durant son explosion. C'est pour ça qu'on le voit à très très grande distance, à des milliards d'années-lumière de nous. Donc si on regarde tous les supernovas qu'il y a eu jusqu'à 2003 ici, il y a encore mieux aujourd'hui, on a à peu près maintenant 1 000 000 de supernovas qui ont été détectées depuis 2 ou 3 ans. Et avec ceci, on peut reprendre la loi d'expansion de l'univers, donc l'échelle caractéristique de l'univers en fonction du temps. Ici, nous sommes à T égale 0. Et ici, vous avez 3 courbes selon les paramètres d'énergie noire et de masse totale de l'univers, lambda et m. Et vous voyez que celle qui correspond beaucoup plus aux données, qui sont le petit triangle rouge ici, c'est le 3/4 à peu près d'énergie noire et 1/4 de matière. Donc les supernovae donnent exactement le même résultat que tous les autres traceurs. Donc on peut représenter sur ce diagramme en oméga lambda et oméga m, c'est-à-dire l'énergie noire et la matière noire, les résultats par exemple du fond cosmique de rayonnement, qui donne un univers plat, la somme fait 1. Ici, on a les supernovas. Ici, on a aussi les lentilles gravitationnelles et les amas qui donnent ce troisième point. Vous voyez que ça se recoupe toujours au même point et qui sont ces valeurs-là. Ces valeurs-là, donc, sont donc le concours de plusieurs traceurs et plusieurs expériences qui n'ont rien à voir entre elles, donc qui ne sont pas biaisées. Aujourd'hui, on a aussi d'autres informations avec la troisième année, le troisième release de l'expérience WMAP. On a non seulement tous ces pics acoustiques qui sont plus précis, mais on a aussi, ici c'est la corrélation température-température, ici on a température-champ de polarisation. Et on voit que, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on peut éliminer des modèles comme le défaut topologique qui donne par exemple l'origine des structures, etc. Ça conforte plutôt les fluctuations adiabatiques et la matière noire froide, comme je vais le montrer. Il y a aussi un autre élément d'observation qui est la cartographie de l'univers en regardant galaxie par galaxie. Ça, c'est un exercice qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Par exemple, vous avez un survey tout d'IF ici. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous avez une tranche de l'univers. Chaque petit point bleu est une galaxie. Et ce que vous voyez dans cette dimension, c'est le décalage vers le rouge, c'est-à-dire la vitesse mesurée sur le spectre, donc le décalage des raies spectrales. Vous avez jusqu'à un redshift qui va jusqu'à 0,2 pour celui-ci, mais ça c'est encore préliminaire. Et vous avez l'équivalent en millions d'années ou millions d'années-lumière, si vous voulez, et puis une tranche qui est juste l'angle ici. Donc c'est ce genre de survey qui autrefois mettait des dizaines d'années à se faire. Aujourd'hui, en un an, vous pouvez avoir 1 million de spectres de galaxies, simplement parce qu'on regarde avec des fibres optiques au moins 400 ou 1000 galaxies sur la même pose. Donc on a un facteur démultiplicatif. Aujourd'hui, on est en train de préparer, avec par exemple l'arrêt à 21 cm, un survey de galaxies qui, en 4 ans, fera 1 milliard de spectres de galaxies. Donc on pourra avoir ces cartographies de l'univers beaucoup plus facilement. Mais déjà, avec ceci, vous pouvez voir de la structure de l'univers. Ici, l'ancienne carte qui avait pris 10 ans à regarder avec un spectre fente. Ici, vous avez toujours la quantité en Z, la profondeur dans l'univers, une tranche d'univers. Vous voyez que l'univers n'est pas du tout homogène, même à grande échelle. Vous avez d'énormes murs. On appelle ça le grand mur du Sloan Survey. Et des petits murs, enfin des gruyères, si vous voulez. Enfin, on voit de l'inhomogénéité à toutes les échelles encore aujourd'hui. Ce qui est très intéressant quand même dans tous ces surveys, c'est qu'on va pouvoir retrouver, gelée dans la matière, la trace des ondes acoustiques qu'il y avait lors du plasma photon-baryon avant la recombinaison, que l'on voit dans le fond, le rayonnement fossile du corps noir à 3 degrés K. Mais dans les baryons, on le voit aussi. Pourquoi ? Parce que dès que la matière se recombine, devient neutre, H1, tout est gelé. Les photons et les baryons n'interagissent plus. Donc les photons vont aller en ligne droite et la matière, elle va avoir ce genre de ride que vous avez ici. La taille de la ride, c'est l'horizon sonore, c'est-à-dire 150 mégaparsecs, donc c'est quand même grande échelle. Mais tout ce genre de ride va se retrouver gelé dans les baryons. Évidemment, dans les maximums de densité, les galaxies vont être beaucoup plus présentes. Et c'est en effet ce qu'on voit quand on regarde déjà avec 50 000 galaxies du Sloan Survey, là, que je vous ai déjà présenté. On a pu voir, en faisant la corrélation de densité en fonction de l'échelle, on a pu voir une trace de l'horizon sonore ici. Vous voyez les points avec les modèles. Un modèle sans ride n'est pas possible. On voit qu'il y a bien une ride. Et donc ça, c'est un grand espoir. Quand on aura 1 milliard de galaxies, on pourra mesurer cette règle standard. Ce n'est pas seulement des chandelles standards, mais cette fois-ci, c'est des règles. On mesure une quantité dont on connaît la longueur intrinsèque à plusieurs redshifts. Donc on peut permettre de voir la courbure de l'univers et même si l'univers s'accélère, a décéléré, etc., en fonction de l'âge. Donc, ça, c'est quelque chose de très précieux qui va être développé dans les années futures. Alors je vous montre justement le début, le parallèle entre les ondes acoustiques que l'on voit dans les photons à Z égale 1000 et les ondes acoustiques que l'on voit encore de façon très très préliminaire. Vous voyez 1, 2, 3, on commence à en voir 3, après ça devient non linéaire. Ici on voit le calcul linéaire, donc il faut faire des simulations numériques pour avoir le modèle ici. Mais on commence à voir les rides des ondes acoustiques dans les... Alors évidemment c'est Z égale 0, mais vous voyez qu'on va pouvoir le voir à Z égale 1, 2, 3, etc. Et ainsi cartographier toute l'histoire de l'univers avec la taille, une règle standard. Donc maintenant, j'en reviens donc à mon sujet de la matière noire. On a l'état initial de l'univers, maintenant on a la carte ici, vous pouvez reconnaître WMAP, la carte des fluctuations primordiales qui sont imprimées dans le fond cosmologique. Donc on connaît qu'on part de 10-5 ici, on connaît le résultat final puisqu'on a les galaxies observées avec le Hubble Space Telescope ici, et puis il suffit de voir, de faire des simulations numériques pour essayer de trouver est-ce qu'on arrive à reproduire à partir des conditions initiales l'état final. Alors ça n'arrive pas si facilement, ça va sans doute nous faire contraindre la matière noire qu'on ne connaît pas. On sait déjà que la matière noire chaude, on appelle matière noire chaude une matière noire dont les particules sont relativistes, c'est-à-dire qu'on a une très grande vitesse, et cette très grande vitesse fait une pression qui empêche les petites structures de s'effondrer. Donc on sait que si on a une matière noire chaude, par exemple les neutrinos, et ça c'est d'actualité puisqu'on sait que les neutrinos ont une masse, ont quelques EV possibles, on ne connaît pas encore, on a des limites supérieures sur la masse de neutrinos, on sait que les neutrinos électroniques, muons, etc. s'échangent, donc on sait qu'il y a une masse qui peut être de l'ordre de 1 électronvolt. Et si c'était le cas, 10% de la matière noire pourrait être des neutrinos, par exemple. Mais ça ne pourrait pas être 100%, parce qu'en tout cas, si c'était des neutrinos, on ne pourrait pas former des petites structures, on ne formerait que des grandes structures. Donc cet exercice-là de simulation, de formation de structures à petite et grande échelle, nous dit qu'il faut absolument avoir une grande partie de matière noire froide, qu'on appelle cold dark matter, donc CDM pour faire court, et qui est faite de particules qui ne sont pas relativistes lorsqu'elles découplent du fond. Donc les simulations faites avec la CDM marchent très très bien à grande échelle. Vous avez ici par exemple le spectre de masse ou de taille, ici, en fonction de l'échelle, et vous voyez que les prédictions en bleu, de la courbe en bleu, sont tout à fait conformes aux observations ici par le le rayonnement fossile, ici par le survet de galaxies, etc., par les lentilles gravitationnelles ou par les amas. Tout ça à grande échelle marche très bien, la matière noire froide avec les observations. Donc qu'est-ce que ça pourrait être, cette matière noire froide? Alors, autant le dire tout de suite, dans les modèles standards de particules, elle n'existe pas. Donc il faut peut-être faire appel à la supersymétrie qui couple tous les bosons à des fermions et les fermions à des bosons, et qui, donc toutes les particules sont appelées avec des INO. Et si vous voulez, la plus petite particule, qui est la plus légère, et donc dans laquelle peut-être toutes les autres de la hiérarchie vont se désintégrer, c'est le neutralino. Et actuellement, c'est le neutralino qui est le candidat le plus évident peut-être pour cette matière noire qui n'interagit pratiquement pas ou très très faiblement avec le reste de la matière et qui est peut-être certainement très très massive. Je ne fais pas la liste de toutes les autres candidats, mais qui sont peut-être des outsiders, par exemple des particules plus légères qui ont été proposées récemment, étant donné que le satellite intégral avait détecté dans le centre galactique une annihilation électron-positron, mais ça pourrait très bien dû être une origine astrophysique, donc les gens n'ont pas vraiment accroché. Ici, des actions possibles. Trous noirs primordiaux, ça a été un petit peu discuté au moment où les premières années de WMAP nous montraient que la réionisation avait lieu très tôt. À ce moment-là, on avait besoin de trous noirs primordiaux. Mais aujourd'hui, avec la troisième année de WMAP, ce n'est plus le cas. Donc, les trous noirs primordiaux sont moins évidents. Donc, évidemment, beaucoup de groupes sont en train de faire des recherches directes de ces particules. Peut-être que bientôt, avec le Large Hadron Collider au CERN, qui va pouvoir atteindre des énergies de 14 TeV, on va peut-être les former dans l'accélérateur. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. La recherche directe de ces particules, par exemple, sous les souterrains, sous les montagnes, etc., pour se prémunir de tous les rayons cosmiques et de toutes les perturbations, pour l'instant, n'ont rien donné. En fait, Dama avait un moment détecté quelque chose, mais personne n'est arrivé à retrouver. Et puis, il y a aussi une détection indirecte. On pense que ces particules devraient se désintégrer en rayons gamma. On devrait aussi y voir des neutrinos par des intégrations. Donc tous ces télescopes, aigrettes, glaces, magiques, sont des télescopes à rayons gamma, ou les télescopes à neutrinos, qui détectent des neutrinos de sources astrophysiques, n'ont absolument rien détecté. Donc pour l'instant, on est encore dans le flou. Je parlerai quand même de baryons noirs, parce que ça c'est quand même quelque chose de plus tangible. Comme je vous le disais, 90% des baryons ne sont toujours pas visibles, donc on a quand même de la matière noire baryonique, et ça on est sûr qu'elle existe. Il y a 10 ans, on pensait qu'une grande partie pourrait être dans les objets compacts, c'est-à-dire les étoiles manquées, un petit peu comme Jupiter, par exemple, qui est une étoile manquée. Ça ne peut pas être une étoile en fin de vie, parce que durant sa vie, l'étoile aurait éjecté des tas de noyaux formés par nucléosynthèse que l'on ne voit pas aujourd'hui, donc ça ne pouvait être que des naines brunes. Et ça n'a rien donné, c'est-à-dire qu'on peut éliminer les objets compacts, comme on a bien eu des éléments de micro-lentilles, qu'on pensait être dans les halos au départ, maintenant ils ne sont que dans les disques, donc ce n'est pas possible. Par contre, la seule hypothèse que l'on a maintenant, c'est du gaz. Ce n'est pas des objets compacts, donc ça ne peut être que de l'hydrogène. On ne sait toujours pas si c'est du gaz chaud ou du gaz froid. Ces deux hypothèses sont toujours en cours. Donc, d'où la question, où sont tous les baryons de l'univers? Dans les galaxies, que ce soit dans les étoiles, gaz ou poussière, on ne voit que 6% des baryons de l'univers. Dans les amas riches de galaxies, qui ont beaucoup de gaz chaud et qu'on voit en rayons X, et d'où la masse du gaz chaud est 10 fois la masse des étoiles, on n'a quand même que 3% au total des baryons de l'univers, tout simplement parce que les amas de galaxies sont une très faible partie de la matière de l'univers. Donc là, ça ne nous fait que 9%, ce n'est pas beaucoup. On sait qu'à l'intérieur, entre les galaxies, il y a une forêt de Lyman alpha. Comment est détectée cette forêt de Lyman alpha? C'est par absorption devant les quasars, on détecte la raie Lyman alpha, qui est très très sensible. Donc on détecte des colonnes de densité de 10 puissance 14 par centimètre carré, beaucoup plus sensible que dans les galaxies où il y a 10 puissance 20 et 21. Et on imagine qu'entre les galaxies, vous avez cette image-là, qui est une image de simulation. Vous voyez des tas de filaments. Les galaxies seraient les points brillants, et les filaments, des filaments de gaz. Donc on pense que les baryons sont justement ces filaments rouges. Sous quelle forme? Alors là, on ne sait pas trop si c'est froid ou chaud. Chaud, on pourrait peut-être le détecter par les raies de O6, les raies de O7, etc. Ça a été essayé. Il y a des limites à 5-10%. Donc au mieux, ça dépend si on tire les barres d'erreur si bien, au mieux au moins, les 2/3 des baryons ne sont toujours pas du tout identifiés. Il y avait une tentative en 2005 de Nicastro qui disait avoir détecté des raies d'absorption de O6. Ici, il s'agit surtout de l'observation de notre voie lactée, notre propre voie lactée. Mais vous voyez que la détection, c'était ceci, ces petites traits rouges-là, et ça n'a pas été confirmé par la suite, donc finalement, c'est plutôt négatif. Et les gaz froids, par contre, on a quand même des observations, et là je vous en montrerai une certaine série, de courbes de rotation qui sont surprenantes et tendent à montrer qu'il y a une grande partie des baryons qui pourraient être en gaz froid. Alors ici, ce que je vous présente, c'est toute une série de courbes de rotation, comme je vous ai présenté la première diapositive. Vous avez ici la distance au centre des galaxies. Et ce que je vous montrais, sans que vous regardiez toutes ces courbes de rotation, c'est qu'on arrive à représenter toutes les données en supposant que le gaz, l'hydrogène atomique, qui est le traceur, est multiplié par un certain rapport, qui est le rapport matière noire sur H1, qui vaut à peu près 10. Ici, vous avez un histogramme de rapport dans lequel il faut multiplier le gaz par un facteur 10 pour trouver, pour n'avoir plus aucun besoin de matière noire dans les courbes de rotation de galaxies. Alors, ce facteur 10 n'est pas énorme, c'est-à-dire que lorsque vous pouvez cartographier le gaz moléculaire H2 au centre des galaxies, il est toujours 10 fois supérieur au gaz H1. Donc, si on pouvait le mesurer au bord des galaxies, et ça, on ne peut pas, parce que la molécule H2 est complètement invisible. En général, on la trace par la molécule CO, mais pour la molécule CO, elle a besoin d'éléments lourds, et ça, on l'a qu'au centre des galaxies, bien sûr. Donc, par exemple, une des galaxies naines qui sont un laboratoire très très précieux pour la matière noire. Pourquoi ? Parce que vous voyez que la courbe de rotation due aux étoiles est très très petite. Donc, même si on se trompe d'un grand rapport masse sur luminosité des étoiles, on ne se trompe pas de grand-chose. Il y a plus de gaz que d'étoiles dans ces galaxies, et puis il y a surtout beaucoup plus de matière noire, comme vous voyez par la courbe de rotation ici. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les irrégularités du gaz sont retrouvées dans la courbe de rotation, ce qui tendrait à penser que peut-être une partie de cette fameuse matière noire est sous forme baryonique et sous forme de gaz froid qui est associé à ce gaz H1. Alors, l'origine de ces structures de gaz, c'est relativement facile à obtenir. Lorsqu'on recombine l'univers à Z égale 1000, un petit peu après, mettons Z égale 100 ou 200, à ce moment-là, les premières structures à se former sont les toutes petites structures. La masse de Jeans, c'est 10 puissance 6 masse solaire à cette époque-là. Donc, c'est un scénario un peu bottom-up, c'est-à-dire qu'on forme les petites structures avant les grandes, et on forme des nuages de gaz, et la molécule H2 est justement un refroidissant efficace pour que ces nuages de gaz s'effondrent. Alors, justement, avant la réionisation, ils se forment avant, ils ne vont pas être réionisés parce qu'ils sont assez compacts, ils sont stables vis-à-vis de la réionisation, et ils peuvent être ensuite un réservoir pour la formation d'étoiles. Au lieu de supposer que tout le gaz reste diffus et va être rayonisé exactement comme tout l'univers, on peut maintenir une partie du gaz froid en rayonisation. Alors là, je pense que le film ne va pas marcher puisque j'ai changé d'ordinateur, j'ai pas le film, excusez-moi. Mais là, bon, il y avait une simulation de passage de l'âge sombre à l'âge de rayonisation, c'est pas grave. Donc, je vais passer maintenant à tous les problèmes de la formation des galaxies lorsqu'on traite de la matière noire froide. Je vous ai dit en première partie que la matière noire froide, le CDM, était le meilleur candidat pour essayer d'expliquer la formation des galaxies pour toutes les grandes échelles. Par contre, on a de gros problèmes à petite échelle au niveau des galaxies. Que se passe-t-il quand on fait une simulation de galaxies dans les ordinateurs, disons, toute la matière noire se condense dans les galaxies avec une très très grande concentration. On appelle ça cuspide. Je pense que c'est un mot français, cusp en anglais, mais en français ça existe. Donc on a un pic de densité au centre des galaxies qui n'est pas du tout observé par les courbes de rotation, par exemple. De même, cette très forte condensation de matière noire au centre des galaxies fait que lorsque les baryons tombent dans ces puits de potentiel, ils perdent leur moment angulaire par friction dynamique et on forme des galaxies qui sont 10 fois trop petites. Les disques n'ont pas assez de moment angulaire et sont trop petits. Et aussi, on a beaucoup, beaucoup de petits halos autour de la voie lactée. Je vais vous montrer quelques exemples de ces trois gros problèmes sur lesquels on est en train de plancher et d'essayer de résoudre par peut-être des phénomènes de feedback, de formation d'étoiles. Alors, le premier problème, c'est celui-ci. Vous voyez la densité de matière noire en fonction du rayon. Voici la concentration, la cuspide qui est prédite dans les simulations numériques. Et voici ce qu'on observe, c'est-à-dire qu'on a un rayon de cœur, on appelle ça un cœur, où la densité de matière noire est plate. Ça, c'est observé par les courbes de rotation. Et en fait, on prédit ceci. Donc ça, c'est un gros problème. On n'arrive pas à détruire ce cusp, soit par la formation d'étoiles ou autre. Le deuxième problème, comment pourrait-il être résolu ? Le paradigme qu'on a actuellement lorsqu'on fait des simulations numériques, c'est de dire que les baryons et la CDM partent avec le même moment angulaire, le même taux de rotation, si vous voulez. Et puis, les baryons se concentrent dans les puits de potentiel de la matière noire. Mais ils sont très chauds, parce qu'on a déjà rayonisé tout le gaz, et puis on s'attend dans les puits de potentiel à avoir un temps de refroidissement au centre qui est plus petit que l'âge de l'univers, et tout d'un coup, les baryons retombent. En fait, ça pourrait être autrement. Il pourrait y avoir une accrétion froide, et c'est actuellement une certaine piste est suivie par plusieurs auteurs. C'est-à-dire qu'on essaie de voir que les filaments contiendraient déjà des petits climps de matière froide qui n'auraient pas été rayonisés. Et à ce moment-là, on ne tombe pas dans le défaut du moment angulaire. On peut accréter le gaz froid et non pas passer par le stade gaz chaud. Donc ça, c'est une piste qui permettrait de résoudre ce gros problème. Et le troisième problème, c'est, vous voyez ici une simulation numérique avec Z égale 50, 10, 3, 1 et diverses époques. Et à la fin, on forme des galaxies, un petit peu comme la Voie lactée ici, qui a 400 petits compagnons. Vous voyez un petit peu le nombre de petits pics brillants que vous voyez. Or, dans la Voie lactée, à dernier recensement, on a peut-être une douzaine de compagnons, en tout cas de cette masse-là. On pourra en découvrir quelques-uns d'autres, mais en fait, ils seront toujours de plus petites masses. Donc, à cette masse donnée-là, on a un gros facteur de manque de petits compagnons observé par rapport à ce qui est prédit par le modèle CDM. Donc, encore une fois, ça pourrait être une conséquence du fait que la matière noire se concentre beaucoup trop dans les puits de potentiel. Et une fois qu'il est très concentré, les forces de marée n'arrivent pas à le détruire et le reformer. Donc, vu tous ces gros problèmes, alors il y a deux pistes. Soit on essaie de le résoudre en essayant de former des étoiles et d'avoir du gaz, la dissipation des phénomènes linéaires. Une autre piste, que j'aimerais détailler dans le quart d'heure qui reste ici, c'est tout simplement, au lieu d'ajouter de la matière noire, on n'a qu'à changer la loi de la gravité. Ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Donc, je vais en dire quelques mots. Alors, par exemple, une des hypothèses de gravité modifiée, qu'on appellera Modified Newtonian Gravity, Dynamics ou bien Monde, a été proposée il y a déjà plus de 20 ans par Milgrom. Donc, son idée, qui est assez judicieuse, c'était de dire que la gravité n'est pas modifiée au-delà d'une certaine taille, d'un certain rayon. Ça ne marche pas du tout pour les galaxies. Mais il a remarqué que si on modifiait la gravité au-delà d'une certaine accélération, à zéro, qui est 2·10⁻¹⁰ en unité SI, c'est-à-dire mètre par seconde carré, à ce moment-là, tout marche. C'est-à-dire que de façon phénoménologique, ou du moins empirique, on arrive à représenter toutes les courbes de rotation des galaxies avec un seul paramètre. Alors ici, vous voyez que pour cette galaxie naine, qui est un prototype, on a très peu d'étoiles, beaucoup de gaz, et une courbe de rotation ici, d'avoir ce mécanisme-là permet de retrouver tous les accidents qu'il y avait dans le gaz aussi dans la courbe de rotation, comme il y a dans les observations. On n'a pas autre chose que les baryons, mais les baryons sont amplifiés par ce phénomène-là, c'est-à-dire que dès que l'accélération tombe en dessous d'A0, vous avez une accélération que j'appellerais monde, GM, qui ne varie pas linéairement avec la masse des objets, les masses des sources, et qui, en fonction de GN, qui est l'accélération newtonienne en 1 sur R2, est en racine carrée de A0 GN. Donc la force, au lieu de décroître en 1 sur R2, décroît en 1 sur R. Le potentiel est alors en ordre de R, et au lieu de 1 sur R. Donc tout ça avec un régime transitoire qui est quantifié par la fonction mu, qui vaut x dans le régime mondien, et puis 1 évidemment dans le régime newtonien. Et vous avez ce lagrangien, qui est appelé a quadratique lagrangien, donc a qual, qui permet de évidemment conserver le moment, etc., de faire un petit peu de physique avec ça, de façon empirique. Et quand on regarde les courbes de rotation, ça marche superbement, à la fois pour des galaxies de type nain, c'est-à-dire qu'une toute petite courbe de rotation dominée par la matière noire, puis d'autres galaxies qui sont vraiment à haute densité de surface, qui, dans la courbe des étoiles, domine celle du gaz, etc. Là, le fit, la courbe ici, c'est le fit de monde avec les données, ça marche parfaitement. Ça marche aussi pour une flopée de courbes de rotation, je ne détaille pas, mais voyez que toutes les courbes de rotation, pour l'instant, il n'y en a aucune qui ne marche pas. Alors que, si vous voulez, quand on compare le CDM qui a besoin d'une infinité de paramètres libres, puisque vous mettez autant de matière noire qu'il faut pour chaque galaxie, et puis surtout une distribution radiale qui varie de galaxie à galaxie, donc vous avez un nombre infini de paramètres. Ici, avec un seul paramètre, vous fitez toutes les courbes de rotation qui ont une grande variété. Donc ça, c'était quand même surprenant, même si c'est phénoménologique. Et surtout, vous avez aussi automatiquement les lois d'échelle qui sont vérifiées par les galaxies, comme la loi de Tully-Fisher. Cette loi a été notée de très longue date, hein, une loi entre la courbe de rotation des disques de galaxies et leur luminosité. Et on a cette loi, qui est une loi de puissance, en vitesse à la puissance 4. Remarquez tout de suite que dès qu'on utilise la formulation mondienne, on voit que l'accélération qui est en V2 sur R au carré donne V4 sur R2. Vous voyez que le R2 s'en va et qu'on trouve automatiquement la loi de Tully-Fisher dans le mécanisme monde. La loi de Tully-Fisher est vraiment quelque chose de masse, parce que quand on voit les galaxies rouges et bleues qui étaient à grande densité de surface, la différence avec les galaxies vertes ici était que c'était des naines dominées par le gaz. Donc évidemment, la luminosité du gaz n'était pas prise en compte dans l'unité des étoiles. Si vous prenez la masse, vous voyez que les galaxies vertes reviennent sur la loi de Tully-Fisher. Donc c'est une loi en fait en masse par rapport à la vitesse et non pas à la luminosité, comme il a été observé au départ, mais ça marche complètement parfaitement. Et je passe sur le rapport masse-luminosité, qui est aussi un paramètre qui correspond exactement à ce qui est prévu par les populations stellaires. Donc, monde marche très très bien à petite échelle. Est-ce qu'il marche à grande échelle? Eh bien, moins bien dans les amas. Alors, pourquoi? Parce que les amas de galaxies, il reste un petit peu de matière noire au centre des amas. Et au centre des amas, on n'est pas dans le régime monde, parce que l'accélération est relativement grande, enfin, à moitié. Et donc, il y a un problème. On ne peut pas se contenter de baryons et du régime monde dans les amas pour expliquer toute la matière noire. Et donc, il manque quelque chose. Ça aide un petit peu, mais il manque quelque chose. Et ça, c'est moins satisfaisant, mais on est obligé de faire appel à une autre composante. Alors, par exemple, les neutrinos ont été rajoutés. Si vous rajoutez 15% de neutrinos, ça marche parfaitement. Enfin, c'est une composante, troisième composante, ce qui est quand même moins satisfaisant pour cette théorie phénoménologique. Ici, vous voyez un petit peu à quel degré on a besoin de ces neutrinos. Ici, vous avez la masse dynamique envers la masse observée pour la loi de Newton, pour les amas. Vous voyez que le mécanisme monde rapproche de la courbe, mais il reste quelque chose. Et vous avez besoin de neutrinos pour ensuite expliquer complètement la courbe de la masse. C'est-à-dire que les neutrinos correspondraient quand même à une fraction significative des baryons dans les amas. Et il est normal que les neutrinos, évidemment, soient piégés par le puits potentiel des amas. Alors là, il y a un petit amas très très intéressant qui a été observé ces dernières années, l'amas du Boulette. C'est un cas très très particulier où deux amas de galaxies sont en interaction. Alors vous avez un amas à gauche, un amas à droite. L'amas à droite vient de passer à l'intérieur du premier amas. Vous voyez ici l'image en gaz X, le gaz chaud par le télescope XMM et Chandra. Et vous avez comme une onde de choc, c'est pour ça qu'on appelle un boulette. Hein. C'est en passant, comme il s'agit de gaz chaud, il s'agit de gaz diffus, il y a des ondes de choc. Les gaz se freinent, alors que les étoiles, la matière noire, le neutrino ou n'importe quoi, ne se voient même pas. C'est-à-dire qu'il n'y a que la gravité qui se voit, mais ils ne collisionnent pas physiquement. Donc les étoiles que vous avez en blanc, enfin les galaxies qui sont vues par leurs étoiles, ne se voient pas. Le gaz chaud rentre en onde de choc. Et le bleu, c'est encore la masse totale qui a été cartographiée par les lentilles gravitationnelles, les déformations des galaxies de fond par les lentilles gravitationnelles de l'amas. Alors, évidemment, beaucoup de gens se sont précipités en disant, enfin, ça y est, on a distingué la matière visible d'un côté et la matière noire de l'autre, puisqu'elles n'ont pas le même comportement. En fait, quand on regarde de près, et les partisans de monde sont revenus à l'attaque, quand on remet le même composant de neutrinos qu'il faut pour expliquer les amas ordinaires, à ce moment-là, on explique tout à fait cette collision d'amas en mettant, évidemment, des neutrinos de masse entre 1 et 2 eV, qui sont encore permises par les observations de neutrinos, et qui expliquent exactement la masse totale, ici vous avez la masse totale, qui comprend les étoiles, les neutrinos, etc. Donc vous n'avez pas besoin de matière noire avec monde, et vous expliquez quand même l'amas du boulet. Alors que se passe-t-il à très grande échelle, et surtout aux oscillations acoustiques, qu'on pouvait très bien expliquer avec le CDM? Alors là aussi, ça peut encore être expliqué avec la théorie monde. Ici, vous avez une théorie sans neutrinos, en pointillé. Ici, c'est la même figure que celle que vous avez l'habitude de voir, mais au lieu d'avoir une échelle logarithmique en échelle angulaire, vous avez quelque chose de plus linéaire, donc ça met en évidence cette partie-là, le troisième pic. Donc ici, vous voyez que si on n'avait pas de neutrinos, vous auriez 95% d'énergie noire et 5% de baryons, ça ne marche pas du tout. Par contre, si vous avez toujours les trois quarts d'énergie noire, un petit peu de neutrinos et des baryons, à ce moment-là, vous arrivez tout à fait à faire le premier pic et le deuxième aussi, un peu comme le lambda CDM qui forme le petit pointillé ici. Donc pour le troisième pic, qui est encore assez bruyant, disons, on a encore un peu de bruit, les deux théories sont encore à égalité, on n'arrive pas à trancher entre soit lambda CDM, soit monde avec des neutrinos. Donc, je voulais aussi montrer un petit peu les développements récents sur le monde. C'est pour ça, d'ailleurs, que cette théorie commence à être un peu plus discutée. C'est que jusqu'à présent, on avait une théorie assez phénoménologique et il n'y avait pas de théorie relativiste. Alors, depuis 2004, Bekenstein a fait une théorie relativiste de monde. Il y avait d'abord une théorie relativiste avec Aqual, qui s'appelait Raqual, mais qui ne marchait pas très bien, car il y avait une propagation superluminique des signaux. Cette fois-ci, tout marche avec cette théorie de Tevez, qui est relativement compliquée, parce qu'elle fait intervenir un tenseur, un vecteur et un scalaire, c'est pour ça qu'elle s'appelle Tevez, et donc un champ scalaire nouveau. Mais avec ceci, ça remplace la relativité générale, et ça permet d'expliquer tous les phénomènes de lentilles gravitationnelles. Donc déjà, les calculs ont été faits pour expliquer les lentilles fortes, les lentilles faibles, le cisaillement gravitationnel qui est observé, et tout semble marcher aussi bien avec la relativité générale qu'avec monde et la théorie Tevez. Alors les conséquences de cette théorie, en fait, on a toujours évidemment le principe d'équivalence faible vérifiée, masse gravitationnelle et inertielle sont égales. Par contre, évidemment, on viole le principe d'équivalence fort. La métrique, l'espace est différente de la métrique gravitationnelle. Donc on a quelques paramètres libres. On a beaucoup de théories aujourd'hui de gravité modifiée, pas seulement un monde viole évidemment ce SEP. Mais par contre, la théorie de quantique gravitationnelle semble régler dans cette théorie-là. Je dirais quand même un petit mot en passant de l'anomalie de Pionnière, parce qu'on en a parlé à propos de monde, justement, étant donné que, comme vous savez, il y a encore ce problème non résolu qui a été détecté il y a 20 ans, et qui affecte ces deux satellites de Pionnière à partir du Soleil ici, qui sont partis dans deux directions différentes, et qui, à partir de Dysaü, c'est-à-dire après Saturne, Jupiter et Neptune, après Neptune et Uranus plutôt, a détecté une accélération supplémentaire qu'il faut ajouter à l'accélération du Soleil pour expliquer la trajectoire de ces satellites. Curieusement, c'est du même ordre que justement cet A0 qu'il faut rajouter dans le monde. Maintenant, est-ce que c'est juste une superposition? C'est un tout petit peu trop fort et ça n'a pas tout à fait la même forme, donc ça ne correspond pas exactement, mais c'est le même ordre de grandeur. Alors, est-ce qu'il y a des barres d'erreur? Est-ce qu'on peut encore trouver de l'origine un peu plus prosaïque comme une fuite de gaz à ces satellites? Tout ça, c'est ouvert, et sans doute, il faut envoyer d'autres satellites pour le savoir, hein, pour avoir la réponse, mais ce qui est frappant, c'est quand même que les Américains savaient ce défaut il y a 20 ans, ils n'ont toujours rien dit, et que ça sort maintenant après beaucoup de vérifications. Donc, d'autres implications de monde, je dirais qu'ils sont assez... disons surprenante aussi, c'est que bon, il y a une cinquième force, et le champ scalaire est équivalent à une cinquième force. Mais ce qui est intéressant, comme l'a développé Zhao très récemment, c'est que ce champ scalaire peut aussi rendre compte en une seule fois de la matière noire et de l'énergie noire. On a pour l'instant des gros problèmes à résoudre, et cette essence, bon, il y a des quintessences, etc., mais la mu-essence, c'est-à-dire uniquement en prenant le Teves, ici, avec la loi de mu de X, permet de résoudre aussi l'énergie noire dans la même. Donc c'est une économie, si vous voulez, d'hypothèses qui permet de résoudre ça. Aux faibles courbures, c'est-à-dire aux faibles A0, on pourrait rendre ces deux problèmes qui, de la noircitude, si vous voulez, qui sont résolus. Et l'interprétation, bon, alors, comment on interprète? Pour l'instant, c'est tout à fait phénoménologique. Quelques interprétations ont été lancées. Je vous en passe une qui n'est pas encore très, très digérée, mais ça date de 2006. Certains ont remarqué une analogie entre l'électromagnétisme. Vous avez ici... un diélectrique, si vous voulez, vous avez un champ E. Lorsque un champ E est appliqué à un diélectrique, vous avez une permissivité relative du diélectrique, mu, et vous avez une polarisabilité de ce milieu. Et donc, vous avez un champ de déplacement D qui s'ajoute au champ électrique pour fermer le champ total. Vous avez ces petites équations. Bon, je le mets ici exactement D sur epsilon 0 pour avoir exactement la même forme que la différence entre l'accélération newtonienne, qui est Gm sur R2, et l'accélération de ce champ scalaire qu'on rajoute pour trouver l'accélération mondienne, avec ce même facteur mu de la fonction qui fait passer dans la régime transitoire de mondien à newtonien, vous voyez que ça a la même forme. C'est-à-dire que, conceptuellement, il est un petit peu équivalent de dire qu'on a le vide, on n'a absolument rien dans le vide, mais vous avez peut-être une énergie dans le vide, et puis vous amenez des baryons qui font un champ de gravité. Ce champ de gravité polarise ce vide, et vous avez tout d'un coup monde qui arrive par la polarisation de ce genre. Enfin bon, pour l'instant, aucun développement n'a été fait. Enfin, je crois qu'il y a quand même Luc Blanchet qui a fait un développement de dipôles. Les dipôles sont complètement annihilés lorsqu'il y a le vide. Et puis ces dipôles se séparent et commencent à se polariser dès qu'il y a des baryons qui arrivent et qui font un champ de gravité. Donc ça, c'est une piste qui pourrait mettre une petite interprétation dans cette théorie qui, pour l'instant, est très phénoménologique de monde. Donc, je conclurai en fait en disant... quels sont donc notre état actuel dans l'élucidation de la matière noire? Bon, on sait maintenant qu'il y a 27% du contenu de l'univers qui est de la matière, donc 15% des baryons, il y a un rapport 6 entre matière totale et baryons. Ce modèle de matière noire qui marche le mieux à grande échelle, c'est la CDM. Donc on espère peut-être avec le LHC dans les années futures détecter cette particule. À ce moment-là, on aura avancé d'un grand pas. Pour l'instant, on n'a rien détecté, donc on ne connaît même pas la masse ni la physique. Et puis, si jamais on le détecte, il y a quand même ces trois problèmes à résoudre pour, faire converger la CDM avec les galaxies. On voit qu'à l'échelle des galaxies, la CDM ne marche pas. C'est-à-dire, pourquoi y a-t-il une très grande condensation de CDM dans les cuspides, le problème des baryons et de la formation des disques, le problème des tas de petits halos qui sont observés. Tout ça, beaucoup de groupes essaient de le résoudre avec ce qu'on appelle gastrophysique, c'est-à-dire avec des feedbacks, des trous noirs, des formations d'étoiles, etc., qui sont des phénomènes complexes et qui ne sont pas bien compris. Et puis, si jamais tout ça ne marche pas, eh bien, on peut s'en remettre à monde et à changer un petit peu la loi. En fait, ça revient aussi à le problème de l'énergie noire. Hein. Ce n'était pas le sujet de cet exposé, mais je pense que ces deux problèmes sont liés. Ici, vous avez l'équation d'Einstein qui relie la courbure de l'univers, le R seconde sur R, en fonction de la densité du contenu de l'univers, avec la fameuse constante que Einstein avait rajoutée et que personne n'aime beaucoup. Donc ici, maintenant, on sait avec les supernovées, avec beaucoup d'éléments, que R seconde est positif. L'univers se réaccélère. On est dans une R où on a un composant qui réaccélère l'expansion. Comment est-ce possible si on veut que lambda soit nul? Il faut au moins que ce terme rho plus 3p soit négatif. Donc il faut trouver un composant qui dominerait seulement aujourd'hui, qui soit peut-être une quintessence, mais qui soit tel que l'équation d'état W, qui est le rapport de p sur rho, soit au moins inférieur à moins un tiers. On serait dominé par ceci, ça rendrait ce terme positif et ça expliquerait l'accélération. Donc c'est soit ces quintessences qui fleurissent ici, aujourd'hui il y a 3 modèles de quintessences par jour à digérer, ou alors vous avez une constante cosmologique, ça résout le problème mais ça n'explique pas parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et puis, ou alors tout ça c'est faux, et même l'équation est fausse, et donc on change tout, et il faut prévoir quelque chose à grande échelle, surtout faible courbure.
Vous venez d'écouter Françoise Combes, membre de l'Académie des sciences, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, qui faisait le point sur les dernières connaissances acquises sur la composition et la détection de la matière noire. Cette séance se termine ici. Si vous souhaitez en savoir plus sur les conférences des grands défis du XXIe siècle, cycle de conférences publiques à l'Académie des sciences, alors visitez les pages du site internet de l'Académie au www.académie-science.fr. Retrouvez également notre émission En habit vert sur le parcours de Françoise Combes dans notre médiathèque sur Canal Académie. Merci et à bientôt.